c'est juste pour le fun. Avec Serge et Donatali, juste pour le fun.
Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être retour sur le podcast Juste pour le fun, le podcast de Choc FM, sur lequel on parle de créativité et de processus de création. Je suis Serge Paul et je suis encore accompagné de mon co-animateur Don Attali. Comment ça va, mon cher Don?
Ça va bien, Serge. Ça va très bien, merci. Bonjour, bonsoir à notre invité.
Bonsoir.
Salut Don, salut Serge, ravi d'être avec vous.
Alors, vous avez peut-être reconnu cette voix. C'est une voix très connue qui, normalement, est de l'autre côté du micro. Mais c'est notre cher Guillaume Lerin qui se prête au jeu de l'invité aujourd'hui. Et on le remercie énormément. Merci d'être là et de ne pas poser de questions.
Ça fait plaisir. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté de la table. Ce n'est pas la première fois, mais presque. Donc, j'espère que je serai aussi un bon invité.
Oui, mais tu auras quand même droit à une question pour moi et pour Serge, on va dire.
Ah ben, j'espère bien, c'est minimum. Une discussion.
C'est ça, c'était une discussion, comme tu as compris. On va parler vraiment à la bonne franquette, comme on dit ici. Et puis, on va commencer d'un peu... On traite beaucoup du côté artistique de nos invités. Je sais que tu as un passé artistique.
À relativiser, on va...
Dans l'histoire de l'art, si je ne me trompe pas.
C'est vrai.
Tu vas nous parler de ça aussi, mais moi je sais que je connais Guillaume, musicien, Guillaume, réalisateur de documentaires. Tu as plusieurs casquettes. Là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, mon cher Guillaume?
Avec grand plaisir. Merci d'abord de me recevoir dans votre émission, dans votre podcast. C'est super agréable d'être avec vous. Je m'appelle Guillaume Lerin, je suis le directeur de Choc FM 105.1 et je suis effectivement... Alors, on a commencé la discussion un petit peu hors micro tout à l'heure là, autour de la notion d'artiste. Et c'est vrai que le mot artiste peut-être fait peur ou l'utiliser peut paraître prétentieux parfois. Mais je crois que c'est toi, Don, qui avait la bonne vision de cette question-là. Savoir que... une star, enfin la nuance entre une star et un artiste qui peut-être a une éthique de son art justement, une vision, contrairement à la notion de star qui a réussi mais qui n'est pas forcément qui n'a pas forcément la même approche. Alors, je ne sais pas si je suis un artiste, en tout cas je suis un wannabe artiste depuis toujours. Et pour moi, j'imagine que tout a commencé assez familial. En fait, j'ai deux grands-pères qui étaient artistes pour le coup. Donc c'était plus ou moins leur métier. Mon grand-père paternel était sculpteur sur bois. Donc il a travaillé pendant très longtemps dans son atelier pour des gens et puis pour lui-même. Il réalisait des meubles, il réalisait des objets d'art, et à une époque où c'était encore on n'achetait pas que du Ikea. et puis mon autre grand-père était peintre. Peintre sur toile, artiste peintre. Je sais que Don, tu es artiste toi-même.
Ça veut dire que ton grand-père aurait pu faire un cadre pour l'autre.
Peut-être. Ouais, c'est vrai. Je crois qu'ils n'ont jamais collaboré, malheureusement. Mais évidemment, ils se connaissaient. Ils avaient du respect l'un pour l'autre. Mais c'est drôle parce que mon grand-père maternel donc, a une sorte d'archétype d'artiste dans ma tête, là. En tout cas, enfant, c'était l'artiste que je connaissais. Mais c'était quelqu'un qui était... consumé par son art, passionné, et qui en parlait avec... qui parlait de la couleur avec une passion extrême, mais qui était à la fois hyper humble dans son approche et qui était quelqu'un qui ne pensait pas du tout à en vivre ou à vendre ses tableaux. Et donc, ma grand-mère le poussait, c'était drôle, oui. C'était vraiment l'art pour l'art, exposer, recevoir des prix, des médailles, il y en a eu pas mal. Mais c'est seulement très tardivement qu'il s'est mis à en vendre et à recevoir des commandes et tout ça. Et c'est assez drôle aussi de voir à quel point parfois, en fait, on est artiste pour soi-même, peut-être plus que pour un public, pour la gloire ou pour réussir financièrement, trivialement. Là, c'est pas forcément ça. Et tout ça pour dire que moi, je suis un peu dans cette démarche-là. L'art, je le pratique de manière intime. Avant tout parce que ça me fait du bien, parce que c'est un échappatoire dans la vie quotidienne trop banale, où voilà, j'y trouve un supplément d'âme. Et puis j'ai évidemment commencé voilà, le dessin, la peinture assez jeune. Pas certain que j'avais un talent aussi intense que mon grand-père, mais je me suis frotté à tout ça. Je me suis frotté à la bande dessinée un petit peu. J'ai travaillé, j'ai aidé des gens sur des projets. J'ai fait des corrections, j'ai apporté ma patte sur certaines choses. Et puis après, c'était surtout la musique qui m'a touché quand j'avais, je sais pas, 10 ans à peu près, j'ai commencé.
J'ai une petite question, Guy, avant que tu enchaînes. Ouais. Désolé pour ça, parce que je note des choses et je ne veux pas les oublier. J'ai un cerveau de TDAH.
Tu as raison, il faut me couper parce que je parle beaucoup, sinon.
Pas de problème. Je note que tu es souvent dans les arts. Tu n'as pas parlé d'écriture, par exemple. Non, mais tu as parlé de dessin, ouais. Tu as parlé de musique, tu as parlé du travail du bois de ton grand-père. Alors, on y reviendra parce que j'ai une autre question là-dessus. Mais ton médium, toi, c'est plus un médium où il y a une image, où il y a quelque chose qui sort. Comme,
ah ouais, intéressant.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est...
Parce que tu aurais pu exprimer tout ça en écrivant, en fait, finalement. Qu'est-ce qui a fait que Guillaume Lorrain n'a pas choisi d'écrire, mais il a choisi de dessiner et d'exprimer son supplément d'âme vers ces trois médiums-là, entre guillemets?
Alors, les mots sont hyper importants aussi. Peut-être que c'est un autre versant. Et aujourd'hui, c'est peut-être plus ce que je fais au quotidien. Professionnellement, je crée des concepts d'émissions. Et voilà, c'est une forme de créativité, on peut le
tout
dire.
Tout à fait.
Ce qui est une des choses qui est le plus excitante là, dans ce que je fais, j'imagine. Mais en tout cas... non, j'écris aussi. J'ai écrit des scénarios. Je ne sais pas trop comment on dit. J'ai écrit des essais, un peu de poésie aussi. Et,
mais ça reste quand même ton premier médium, pardon. C'est pour ça que je reviens au petit Guillaume de 10 ans.
Ouais.
Le naturel a fait que tu as été vers trois médiums qui étaient plus, je ne vais pas dire matériels, mais qui appellent les sens.
Oui, c'est vrai, l'aspect sensuel, c'était peut-être plus direct, plus immédiat.
Oui.
Ou alors, je n'avais pas encore nécessairement le bagage grammatical pour m'exprimer, pour exprimer toutes mes émotions comme j'aurais voulu. Et donc, j'étais plutôt dans le ressenti, dans la sensation. Et je me rappelle très bien, pour revenir à la musique, je me suis mis au piano quand j'avais une dizaine d'années, sans grand succès parce que j'étais un très mauvais élève en matière de solfège, je détestais ça. Il faut savoir aussi que je suis gaucher, ce qui fait que pour beaucoup de choses, pas nécessairement le piano, mais je ne sais pas pourquoi ça me vient maintenant, mais pour la musique, pour pas mal de choses, ça peut être déroutant. Puis nous, les gauchers, on a tendance à avoir un cerveau inversé.
Oui.
Je le vois parce que mon fils est gaucher et il apprend à écrire actuellement et il écrit tout en miroir, à l'envers, littéralement. Et c'est assez intéressant de voir ce processus-là. Non, mais il écrit même de droite à gauche et les mots en miroir.
Il écrit des codes
avec
ça. Ouais. je crois que c'est l'honneur de Vinci qui écrivait comme ça pour codifier ce qu'il a écrit.
C'est marrant.
Mais juste pour sauter sur quelque chose que Serge a dit tout à l'heure, le premier médium, c'est pas mal intéressant, mais je trouve que c'est quand même le médium qui devient accessible à tous les enfants, c'est le dessin. Sauf que à un certain point, on commence à dire « Ah, ton bonhomme de neige est vachement plus réaliste que celui de ton frère ou quoi. » Et puis, je commençais à me demander aussi « Est-ce que tous les arts ne donnent pas une image à la fin ?» parce que même un poème, même bien sûr un film, mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'après l'image que tu donnes, ça peut être vu d'une autre manière. Donc c'est ce vrai. Dessin que moi j'ai cru que c'est bon, quelqu'un d'autre peut dire ah, c'est n'importe quoi.
Ouais.
Chaque art. Alors même le travail avec le bois, tu prends un arbre et ça devient quelque chose que tu peux voir.
Ouais, l'image, la métaphore, peut-être, ouais. Ça peut être effectivement quelque chose qui est intéressant.
Ou reproduire quelque chose qu'on a imaginé, mais même imaginé, il y a image dedans.
J'étais très fort pour copier. Jamais été un super bon dessinateur. D'imagination.
C'est comme ça qu'on commence, non ?
C'est comme ça qu'on commence, mais j'ai jamais passé ce cap-là. Je suis toujours assez capable de copier relativement bien quelque chose. Mais si je dois partir de mon simple imagination, je vais avoir un problème de proportion, je ne vais plus arriver à faire quelque chose qui tient vraiment la route. Ou alors, je vais commencer, par exemple, une bande dessinée. Je fais un personnage bien une fois, et puis la case d'après, ouais. On ne va plus le reconnaître. Parce que... donc, c'est ça un peu ma limite. Mais
donc, tu as un médium où tu te sens mieux, entre guillemets. Là, tu parles du dessin où tu es arrêté par la technique, entre guillemets.
Ouais.
Est-ce qu'il y a un autre médium où tu te lâches plus, on va dire ?
Aujourd'hui, c'est plus l'écriture, je pense, okay. Vraiment, parce que je suis un lecteur invétéré et j'aime aussi. Il y avait une phrase de Picasso qui disait un bon artiste, c'est un bon voleur. Et moi, je crois que tu peux pas forcément réinventer la roue. Par contre, tu peux t'inspirer des meilleurs et leur piquer des idées et te les approprier et en faire ta nouvelle mythologie à toi, en fait. Et donc, j'ai une multitude d'influences. Tu disais tout à l'heure, effectivement, j'ai étudié l'histoire de l'art un peu plus tard dans ma vie. Ça m'a évidemment, c'était une passion. Mes parents regardaient ça d'un œil un peu douteux en se disant qu'est-ce que tu vas faire après comme travail, parce qu'il n'y a pas tant de débouchés que ça. Mais j'ai étudié ça à la Sorbonne, puis après à l'École du Louvre, avec l'idée à cette époque-là de devenir conservateur de musée. Donc c'était assez sérieux, c'était vraiment une motivation, une passion là. Mais justement, dans ce versant plutôt collectionneur, amateur, amateur éclairé,
que créateur,
ouais. Parce que je sentais cette limitation. Et je crois que c'était aussi en micro qu'on parlait du syndrome de l'imposteur ou peut-être de cette timidité-là à se lancer. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore ça. C'est-à-dire que, comme je disais, dans l'intimité, je crée plein de choses sur différents médiums. Mais je suis assez dur avec moi-même. J'ai toujours tendance à ne pas vouloir le rendre public ou à ne pas me sentir prêt.
Mais l'important, c'est de pratiquer, même si tu fais ça de ton côté. C'est de pratiquer et puis de passer outre en disant « Tiens, j'ai copié celui-là ». En fait, non, comme disait Picasso, tu as dit tout à l'heure, on vole tous un peu partout. Puis tu te dis bah, « c'est mon truc à moi ». Mais
je trouve, sur Picasso... Je trouve, parce que quand j'ai appris à propos de lui et d'autres peintres, moi, je me suis dit, mais ce gars n'a pas de talent. Selon ce que moi, je voyais, je trouvais que Picasso, il s'est comme imposé dans son art comme un artiste, parce qu'il faisait juste des peintures. Moi, je trouve que je ne comprenais pas vraiment ce qu'il voulait faire. Et je voyais que ce n'est pas comme si tout le monde faisait ce que Picasso faisait. Il y a les Da Vinci ou les vieux, les classiques, qui font leur propre portrait pour un portrait. Mais moi, je trouve que donc... je vais vous poser la question, parce qu'on a parlé de l'artiste, de la star.
Ouais.
Et maintenant, moi, je vais inclure le talent là-dedans.
C'est intéressant comme question.
Ouais, parce que... Il y a des gens qui disent « Oh, t'as du talent », mais c'est tout, c'est là. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir un artiste ou devenir une star. Mais je trouve aussi que si tu connais ton but, si tu te dis « Je vais devenir artiste », tu vas faire des choses que ferait un artiste. Donc tu vas vouloir jouer la guitare, tu vas vouloir dessiner, tu vas vouloir t'expandre comme artiste. Si tu es très jeune, tu dis je veux devenir star, tu dis qu'est-ce que je dois faire pour devenir. Donc tu vas faire peut-être des postings différents sur Instagram ou tu vas faire
Ouais.
des trucs choquants parce que ton but c'est ça. Maintenant, le talent, parce que justement je vois qu'il y a des artistes que moi je dirais qu'ils ont moins de talent ou pas de talent.
C'est
Donc
relatif, peut-être
c'est
c'est la notion
relatif.
relative.
Ouais.
Le talent, tu le juges. Enfin, c'est une tierce personne qui va juger du talent d'un artiste. Je pense que l'artiste va pas se poser de la question nécessairement de savoir s'il a du talent.
Ah oui, c'est vrai.
Mais l'appréciation, là, tu parlais de Picasso, effectivement, bah, il est influent important dans l'histoire de l'art. Maintenant, mais c'est l'appréciation que tu en as peut être différente de celle de quelqu'un d'autre, et tu peux être, ton avis peut être, tu peux être
Limité,
seul contre tous, c'est-à-dire
oui.
que tout le monde peut adorer Picasso, sauf toi, c'est
Oui.
correct aussi, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de... L'art, on va parler de sensations, de sensibilité, à mon sens en tout cas, dans ma vision, on n'a pas deux appréciations identiques devant une œuvre, quelle qu'elle soit.
C'est ça. Je suis
C'est
d'accord.
une expérience qui est intérieure et qui est personnelle. Donc l'artiste a du mal à juger de son propre talent. Là, beaucoup d'artistes sont torturés parce qu'ils sont perfectionnistes. Ils pensent que ce qu'ils font n'est jamais assez bon. Pour revenir à mon grand-père, il était spécialiste de retoucher une œuvre 10 ans après, ou même quand il était invité chez quelqu'un, voyant une de ses toiles au mur, demander est-ce que je peux la reprendre pour une semaine? J'ai besoin de retoucher quelque chose. Ça va pas.
Intéressant ça.
Donc c'est ça. C'est difficile aussi parfois de se détacher, de dire ok, c'est
C'est-à-dire
fini.
c'est fini, c'est ça,
Ouais.
et de laisser faire. Tu reviens sur tes grands-parents, et ça va me permettre de poser une autre question par rapport à ton grand-père, qui était artiste de bois.
Ouais.
Parce que le mien, il était ébéniste.
Ah, super.
Mais il créait des tableaux, il créait des meubles aussi.
En marqueterie.
Mais, ouais, mais lui, il se considérait comme ébéniste. Et il se considérait pas comme artiste. Et pourtant, on a encore des tableaux de lui en bois à la maison. On a encore certains meubles qui
Ouais.
sont magnifiques.
Ouais.
Et quand je t'ai écouté, j'ai dit, tiens, c'est marrant. Mon grand-père, ben, il a vécu de ça et il a vécu de son ébénisterie, mais il a jamais dit qu'il était artiste. Et pourtant, ben, il était en fait finalement, si tu regardes. Je pense qu'il y a une façon d'aborder ce talent que tu as,
Ouais.
pour revenir sur le mot talent, et dépendamment comment tu l'abordes. Bah, tu vas vivre comme un artiste, entre guillemets, ou tu vas vivre comme un ébéniste, pour reprendre.
Comme un artisan, c'est la nuance
Ouais,
peut-être
oh,
qu'il
joli,
faut
joli,
souligner.
ouais, ça c'est une jolie, jolie. Belle évolution du mot.
Mais
Tu vois, à quel moment aujourd'hui on se considère comme un artiste ou comme un artisan? Tu vois, et j'ai l'impression qu'il y a une hiérarchie entre les mots. Il y a l'artisan, l'artiste et la star.
Ouais, alors c'est vraiment intéressant juste pour étayer ça, et ça me fait penser à mon ancien métier, parce qu'avant de faire de la radio, j'ai travaillé dans le domaine de l'art, dans le marché de l'art pendant une dizaine d'années à Paris, dans une galerie qui vendait des antiquités, qui vendait des objets d'art, et j'étais au contact avec d'autres galeristes qui faisaient de l'art contemporain. Okay, donc il y a sur l'art contemporain beaucoup de débats, pour savoir ce qui est bon, ce qui va marcher, ce qui va dans 10 ans être considéré encore comme de l'art ou ce qui va être à jeter, tout simplement. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, mais il y aura un tri. Tous les artistes qui sont affichés dans des grandes galeries, même si les prix sont chers, ça ne veut pas nécessairement dire que dans quelques années, ce sera encore le cas ou ce sera peut-être
C'est
des
vrai.
artistes oubliés. Et au contraire, certains grands artistes internationalement reconnus, là, je sais pas moi, les Jeff Koons, les mecs comme ça, sont pas forcément nécessairement des gens qui vont faire l'art avec les mains. C'est des concepteurs. Ils vont avoir un concept et ensuite ils vont avoir des petites mains, des artisans justement, et ils vont avoir des ateliers et c'est ces gens-là qui vont faire l'œuvre pour eux. et ils en retirent toute la gloire, la plupart des bénéfices financiers aussi. Donc, c'est le système capitaliste, c'est le marché de l'art tel qu'il existe aujourd'hui.
Mais c'est la même chose dans la bande dessinée, par exemple, t'interromps, dans la bande dessinée, t'as le scénariste, t'as le dessinateur principal, puis t'as tous les gens derrière qui font les décors, qui font tous les buildings avec les fenêtres et tout ça.
Les coloristes.
Les coloristes, tout ça.
C'est justement en connectant ce que tu as dit avec la hiérarchie que tu parlais, parce que ce que tu dis, c'est intéressant, parce que ça, un gars qui a la vision, c'est aussi comment ils ont fait les cathédrales. Donc,
un architecte.
Est-ce qu'on peut dire que la vision, c'est l'artiste, et puis les gens qui travaillent pour lui, c'est les artisans, ceux qui sont juste là pour le travail qu'on leur a dit de faire.
Intéressant.
C'est un grand débat. Puis il y a d'ailleurs un courant au XXe siècle qui s'appelle l'art conceptuel, où effectivement, on parle davantage d'idées que de produits finis, matériels. Là, ça peut être... moi, en tant que personne, je suis attaché aux objets. Justement, je suis collectionneur. Je suis, si on parle de musique, je suis guitariste, mais je suis avant tout amateur de l'objet, la guitare. Mmh. Et d'ailleurs, pour connecter avec le bois, pendant la pandémie, j'ai fabriqué ma propre guitare.
Excellent.
J'en ai même fabriqué deux.
Pourquoi une quand on
Ouais, exactement. que j'ai toujours pas fini, par contre. c'est aussi la notion de ce sur quoi je voulais rebondir. Ça me fait penser. Ça part dans tous les sens, mais c'est organique.
C'est juste pour le fun.
C'est juste pour le fun, mais ce que tu disais, Don, ça me fait penser effectivement l'art conceptuel et la notion de beau. Je voulais vous poser peut-être la question à vous aussi, parce que pour moi, l'esthétique est importante dans mon acceptation de l'art, mais ce n'est pas toujours le cas, et au XXe siècle, c'est quasiment plus le cas. Un artiste, sans faire trop d'histoire de l'art, là, mais un mec qui s'appelle Marcel Duchamp a brisé tout ça dès les années 1910 en mettant un urinoir dans une galerie.
C'est ça, ce que j'allais dire.
Et donc ça, c'est devenu ce qu'on appelle le ready-made, donc prendre un objet du quotidien le plus trivial possible et en faire de l'art juste parce qu'on déclare que c'est de l'art.
Ça, c'était en 1910 ?
Ouais, quelque chose comme ça.
Oh, je pensais que c'était beaucoup plus récent que ça. Moi, je pensais que c'était dans les années 60-70.
Non.
Déjà, à cette époque-là, waouh !
Par contre, tu vois, moi, j'ai du respect, un respect énorme pour Marcel Duchamp, même si je lui en veux énormément, d'avoir détruit cette vision de l'art qui était la mienne, celle du beau. Mais c'est un génie dans le sens où il a... pousser des limites. Il a franchi des caps. De la même manière, pour moi, Picasso, c'est aussi un grand artiste à cause de ça ou grâce à ça, parce qu'il était en avance sur son temps, parce qu'il a développé différents courants, il a été repris. C'est pas que pour ça, mais ça fait partie pour moi d'un grand artiste.
Je trouve que, peut-être j'ai mal parlé, mais il est très fort. Comme le mot que j'avais utilisé, c'est « il s'est imposé », donc même dans mes classes, je me dis, ce gars, on l'étudie. Il parlait, par exemple, comment il était avec ses copines et ses femmes.
Humainement, c'était
autre chose. Aussi, les cotations. Donc, quand on lui posait une question et qu'il disait quelque chose, tu n'avais pas le choix que de dire. Mais oui, il a raison. Donc, ce que j'aime, en fait, c'est que j'ai trouvé que dès que tu rentres dans le monde des arts, les limites, les contraintes habituelles, tu es permis de les briser.
Ouais.
Donc, c'est là que ton cerveau peut se dire, « Oh, mais pourquoi chaque fois que je vais uriner, je suis tout seul ? Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être au milieu de la galerie comme tout le monde ?» Et même si c'est choquant, juste parce qu'un cerveau l'a pensé, peut-être d'autres cerveaux vont l'accepter alors que c'était complètement un tabou. Quand tu racontais ça, ça m'a fait penser à Banksy. Mm. Quand Banksy avait vendu un tableau aux enchères, mais il avait mis un système en dessous du tableau, comme un shredder,
ouais,
pour que dès qu'on l'achète,
ouais,
il se détruit. Et ce qui s'est passé, le tableau se détruisait, tout le monde est choqué, et puis ça s'est arrêté à la moitié.
Donc ça, c'est vraiment super, c'est un des derniers grands jalons pour moi de l'histoire de l'art, parce que le mec vend à la fois un tableau matériel et une performance en direct, et c'est un énorme pied de nez au marché de l'art, parce que le tableau a été adjugé, plusieurs millions, je crois 12 millions, quelque chose comme ça. On ne sait pas si ce n'est pas lui qui l'a acheté en sous-main avec sa galerie pour faire un coup de buzz, là, peut-être, peu importe, c'est pas... parce qu'il y a aussi le côté marketing là, dans le marché. Mais malgré tout, il a effectivement fait quelque chose de nouveau en faisant ça. Il s'est moqué de lui-même aussi, il y a de l'autodérision. Donc pour moi, ça a sa place dans l'histoire de l'art, comme ça fait partie de l'art. Il y a d'autres choses qui... pour moi, ne sont pas nécessairement de l'art. Tu parlais de l'eschatologie, les gens qui... on ne va pas trop rentrer là-dedans.
Qui mettent des gros caca au milieu de
ça. Ouais, ou la banane sur le mur avec un duct tape.
Choses comme ça. Ouais. OK, ça, c'est rigolo, mais ça a déjà été fait 1000 fois depuis 60 ans. Ça n'avance pas, ça ne fait pas avancer... notre vision de rien du tout, en fait, si ce n'est peut-être se moquer un peu du marché.
Oui, je suis d'accord. C'est comme la créativité. Je peux dire, OK, je vais être créatif et trouver une autre façon de m'asseoir sur cette chaise. Ça peut pas être confortable si c'est pas la bonne façon, mais même si je dis, OK, j'ai été créatif, je l'ai mis à l'envers et maintenant regarde-moi. Mais bien, tu as été créatif avec ça, mais c'est quand même.
T'as rien apporté. Voilà. Ouais. T'as pas apporté de supplément d'âme.
T'as pas amélioré la chaise, ni la façon de l'utiliser.
Mais moi, j'ai une question pour vous, messieurs. Est-ce que ça doit apporter quelque chose au public ou ça doit apporter quelque chose à l'artiste? Est-ce que la personne qui a accroché la banane avec du duct tape, est-ce que c'est une façon aussi pour lui de s'exprimer? Peut-être que ça a déjà été fait, comme dit Guillaume, mais c'est aussi une façon à lui de s'exprimer. Donc, est-ce que ça doit obligatoirement avoir un impact sur le public?
Ça c'est fait pour faire réagir, là. Puis c'est clairement presque puéril, tu vois. C'est du domaine de regarder ce que je me permets de faire de vendre ça très cher et juste l'audace de l'exposer, regarder comme je joue avec le système. Mais encore une fois, jouer avec le système, ça, à mon sens, chacun sa vision, mais ça a déjà été fait mieux et bien avant, par Marcel Duchamp, entre autres, de manière peut-être un peu plus spirituelle. Et par exemple, je pense à ce collectif d'artistes aussi dans les années 1910, ils se permettaient des choses un peu folles. Qui avait fait croire à toute une communauté qu'un nouvel artiste venait d'éclore et que c'était un nouveau génie. Ils avaient monté ça assez bien. Pour la faire courte, c'était un âne dont ils avaient trempé la queue dans de la peinture, qu'ils avaient nourri et que l'âne avait tracé quelque chose. Mais ils avaient réussi à faire croire à tout le monde. Et donc c'était aussi du domaine de l'humour. C'était aussi pour se moquer un petit peu de là où on en était rendu dans l'art, qu'on pouvait se permettre tout et n'importe quoi, du moment qu'on met le mot dessus, vous n'avez rien à dire, c'est de l'art, parce que je le décide en tant qu'artiste. Peut-être qu'on est allé trop loin là-dessus.
Est-ce que
je voulais ajouter quelque chose, parce que tu as dit messieurs pour la question, sur la réaction. En fait, je trouve que déjà l'artiste qui décide de faire quelque chose de pas conventionnel, il réagit déjà. Il réagit déjà à ce système qui est en place, par exemple. Ouais. Donc, sa réaction, c'est de se moquer de ça. Maintenant, le public peut dire, il s'est moqué de ça. Ou le public peut avoir une réaction en voyant ce que moi, j'ai fait avec ma réaction. Je crois que, en tant qu'artiste, tu ne cherches pas nécessairement une autre réaction après, parce que ton œuvre, c'est déjà une réaction à quelque chose. Donc, maintenant, tu espères que les autres eux, une réaction à ton œuvre, même si ce n'est pas ta réaction initiale de se moquer du système, parce qu'ils sont dans le système. Donc, ils peuvent voir ça comme, le système permet ça, donc c'est une réaction. Ou le système est nul, c'est une réaction, mais toi, ta réaction est déjà là. C'est...
Mais il y a une espèce de starification de l'art aussi.
Ouais, c'est ça. Et puis, y a plusieurs choses là, qui me viennent en t'entendant parler. Mais l'artiste contemporain, dans cette démarche de chercher à faire réagir, c'est souvent en choquant. Mmh. Et puis, pour moi, c'est pas nécessairement... c'est une manière de faire. C'est pas nécessairement l'unique et la bonne. Je compare ça avec la presse People qui va faire des gros titres un peu racoleurs juste pour vendre du papier. C'est pas du journalisme de qualité, on est d'accord. Donc ça peut être la même chose un petit peu pour certains types d'artistes. C'est pas toujours le cas. Ça peut, la dynamique d'essayer de choquer peut être intéressante parce que quand tu secoues quelqu'un, tu secoues un système établi, tu changes un peu les règles, tu changes la donne, ça peut être intéressant aussi. Là, il se passe quelque chose. Mais si c'est uniquement, tous les effets sont basés là-dessus, pour moi, c'est pas suffisant. Y a une dimension d'universalité dans l'art aussi, à mon sens. C'est-à-dire, tu parlais de Da Vinci, de Raphaël, de Jean. Pourquoi est-ce qu'on les considère toujours comme des artistes? Pourquoi est-ce qu'on les admire toujours? C'est parce qu'ils nous font toujours vibrer quand on les regarde. Parce que, pour parler d'art visuel, mais ça peut être aussi Beethoven ou n'importe quel musicien ou autre.
Ou Victor Hugo.
Victor Hugo, quand on lit, voilà. Il se passe quelque chose qui est du domaine de la sensation, comme tu l'as dit très bien, Serge. Et c'est pour ça que la notion de beau fait partie pour moi de mes valeurs artistiques. Mais ce n'est pas nécessairement les seuls et uniques, on est d'accord. Et comme j'ai dit, il y a des artistes que je considère comme des grands artistes parce qu'ils ont marqué l'histoire. Mais ce n'est pas pour ça que j'admire le produit fini.
Ah ouais, je comprends. Et l'artiste Guillaume, qui a été influencé par toute cette connaissance de l'histoire de l'art, qui est influencé par tout ce qui est faire attention, entre guillemets, à bien porter le bon message et à pas faire juste de la star ou du buzz. Comment il aborde ses propres œuvres? Et je vais faire une référence à un documentaire que tu as créé pendant la Covid, qui parle des papas et de leur... comment toi, tu as abordé ce thème, ce médium-là du documentaire, ce thème que tu voulais aborder par rapport à toutes ces influences que tu as, et en disant, ben, je ne veux pas faire du buzz, je veux faire un truc qui tient la route pendant des années. Est-ce que tu peux nous parler de ce processus-là, Guillaume ?
Ouais, merci Serge, avec plaisir. Bon, c'est un projet très intime, intimiste, que je voulais, qui me tenait à cœur parce que j'avais cette paternité qui était arrivée à ce moment-là. Et on était en pleine Covid, complètement bloqué. On n'avait plus le droit de circuler, de rien faire, de voir personne. Et j'avais envie de m'essayer à quelque chose d'un peu différent que la fiction, parce que c'est plutôt dans le domaine de la fiction que j'avais travaillé auparavant pour l'aspect cinéma ou pour l'écriture. Et donc là, j'avais envie de parler de choses réelles, de sensations, mais aussi enfin, j'avais envie de toucher un côté humain. Mais je me suis affranchi, pour être tout à fait honnête, de toute espèce de vision artistique ou de référence à qui que ce soit. C'était assez organique, la manière dont ça s'est passé. Mais je voulais faire ressentir l'amour paternel, peut-être, ou quelque chose comme ça, dans le documentaire. Je ne sais pas si c'est vraiment ça que j'ai fait.
Pardon pour te couper, mais quelque part à l'intérieur, c'est quelque chose que tu as fait pour que ton enfant ou tes enfants puissent regarder plus tard, ou c'était pas nécessairement pour...
Non, comme je disais, je l'ai fait un peu pour moi, pour avoir comme ce besoin d'externaliser des émotions. Mmh. C'était assez une démarche plutôt personnelle et individuelle. Mais
ça reste individuel et personnel. Une œuvre d'art, entre guillemets, au début, après.
Au début,
C'est là quand, comme ton grand-père qui veut pas lâcher son tableau, qui veut le refaire, là, tu es obligé, tu as fait ton film, tu le mets sur YouTube. Après, qui est 10 vues ou 10 millions, c'est pas toi qui décides, en fait, finalement.
C'est vrai, c'est vrai.
Et d'ailleurs, comment tu as géré ça? Parce que tu l'as fait, excuse-moi, mais tu l'as fait personnellement. Tu l'as mis sur YouTube. Tu t'attendais pas à avoir non plus 10 millions de vues. Mais si c'était arrivé, tu aurais géré ça comment?
Avec des si, rhum en bouteille. Non, je pensais pas. Je me suis jamais mis dans cette tournure d'esprit là pour ce projet là, parce que j'étais persuadé que ça allait pas être nécessairement quelque chose de qui allait avoir un retentissement. Mais par contre, la question se posait plus pour un projet que j'avais fait. De fiction auparavant en France, qui était j'étais beaucoup plus jeune, j'avais des ambitions peut-être plus démesurées en termes de portée, parce que et j'avais aussi en termes artistiques là, parce que je m'étais inspiré de pas mal de choses, j'avais beaucoup de référents dedans, et c'était un court métrage. Mais comme tout premier exercice, j'ai pêché par la volonté de trop en mettre, probablement.
Par orgueil
ou par volonté d'être trop démonstratif, ouais. Tu vois ce que je veux dire. On a du mal à se focaliser sur une idée centrale. Quand on débute, souvent, on a peut-être besoin de tout dire d'un seul coup. Et c'est pas forcément... ça marche pas toujours.
Je crois que on va réaliser ça peut-être dans 5 ou 10 ans, mais la période de Covid... Ça a mis la créativité en stéroïde. Tout le monde a... Bah, moi, comme artiste, j'ai grandi, j'ai fait plein de peintures, mais il y a plein de gens qui n'étaient même pas artistes qui sont juste devenus créatifs, ouais, pour faire des trucs. Que ce soit pour jouer avec quelqu'un que tu dois rester à 6 pieds de distance et faire de l'exercice, ou quoi que ce soit. Il y a vraiment eu beaucoup de créativité en ligne. Et je ne sais pas si c'est quelque chose qui est reconnu ou parlé, mais c'est quand même intéressant parce que ces 2 ans-là, tout le monde coincé, qu'est-ce qu'on fait?
Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser, quand moi j'essaie de créer quelque chose, par exemple à Frank Open Mic, il y a un thème, il y a une suggestion, il y a une barrière, qui est ce thème-là. Je pourrais très bien le laisser de côté, mais parce qu'il y a ce thème-là et cette barrière-là, moi ça m'oblige à créativité et puis à me focusser là-dessus. Est-ce que vous sentez ça? Bah, tu disais pendant la Covid, mais est-ce que vous sentez ça quand il y a une barrière ou si vous voulez créer quelque chose, ok, il faut que je m'impose une barrière, sinon après je pars à volo.
Je suis content que tu poses la question. Absolument, je voulais le dire tout à l'heure, puis une chose et l'autre, j'ai oublié, mais l'artiste peintre, par exemple, il a un cadre autour de lui. Il peut faire des dimensions différentes, mais il sait où il va, il sait qu'il ne va pas dépasser du cadre. La liberté en art, c'est peut-être, c'est à la fois extraordinaire, tu peux tout faire, tu peux t'affranchir de toutes les normes, mais c'est aussi un piège, là. Moi, j'ai souvent plus l'angoisse de la page vide que de la page pleine. Je ne sais pas si ça fait un sens, mais quand je n'ai aucune barrière, je vais nécessairement chercher à m'en créer moi-même.
C'est ça.
Donc, je vais avoir besoin de m'imposer des limitations de temps pour réaliser ce que je veux réaliser, parce que je travaille bien que dans le stress. Et des limitations aussi suivant ce que je veux faire en matière de si j'écris quelque chose à la guitare, je vais dire ok, je fais une chanson de 3 minutes avec tel thème, et je vais peut-être même m'imposer d'utiliser tel mot et tel mot dont j'aime les consonances, ou voilà, des choses comme ça. Mais si j'ai aucune limite, j'arrive pas forcément à produire quelque chose de très démonstratif.
Je trouve qu'il y a deux façons dont je regarde l'affaire. Une fois que j'ai compris le terme statut artistique, parce que pour moi, donc c'est comme j'étais encore immigrant, je comprenais le statut immigrant, donc t'es pas sûr que tu peux être là, ou le statut permanent. Pour moi, quand j'ai compris le statut artistique, ça veut dire que c'est moi l'artiste. Donc, même si je mets une limite ici, qui peut briser cette limite sauf moi? Donc, j'ai le droit de... Alors, ce que je me dis maintenant plus, c'est le but, le goal, Donc, si je veux faire une chanson, je vais me dire une chanson qui danse, qui est positive. Donc, j'ai le goal. Mais après, je me permets de passer partout pour arriver à ce goal. Au lieu de dire, je veux arriver là, mais je peux seulement sauter sous les cases. Donc, je me permets vraiment d'être... Ouais.
Mais pour moi, personnellement, j'ai besoin d'abord de me créer une barrière pour pouvoir la casser après. Parce que, tu vois, j'ai mis mes choses dans cette barrière-là, dans cet enclos-là. Mm-hmm. Puis après, mes chevaux ou mes chèvres, ils peuvent s'échapper comme ils veulent, entre guillemets. Mais et la Covid, pour moi, c'était une magnifique barrière, quoi. Ouais. Tu pouvais rien faire, donc tu étais obligé de t'évader différemment.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que en tant que journaliste, moi, j'ai beaucoup interviewé d'artistes à ce moment-là, musicaux. Pas spécialement à ce moment-là, mais parce que peut-être il y avait moins d'actualité, parce que j'avais aussi envie de donner aux gens un contenu un peu plus détendu. Et il y avait vraiment les deux aspects, il y avait deux types de personnes. Il y avait des gens pour qui ce grand vide créait peut-être une sensation de dépression, ils ne voyaient plus personne, donc ils étaient plus inspirés par la vie quotidienne, ils ne pouvaient plus sortir, donc ils perdaient toute leur créativité. Et au contraire, il y avait des gens pour qui être contraints de rester chez soi, enfermés dans leur studio, ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Ils avaient peut-être accumulé avant des idées qu'ils avaient attendues, parce qu'on n'a jamais le temps dans la vie de rien faire. Et tout à coup, ce temps-là, on l'avait. Et donc, ils ont mis ça à profit. Mais il y a vraiment eu les deux types de profils, là.
Et je pense qu'il y en a même plusieurs que ça, mais parce que chaque artiste est différent, je sais, dans sa façon de créer et de faire la création. Mais pour revenir sur ton documentaire, le thème que tu voulais aborder, c'était la paternité. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu utiliser l'image et le documentaire et pas écrire une chanson, par exemple? Et c'est pour ça que je pose la question, parce que la créativité, c'est l'idée. Et puis le processus de création, c'est dire, qu'est-ce que je vais utiliser comme médium? Qu'est-ce qui t'a fait envie de faire
à la base, j'aurais pu avoir envie, j'imagine, de faire, de faire un beau portrait photo ou une peinture d'un père avec son enfant, de me faire un autoportrait avec mon fils. Puis je ne dis pas que je ne l'ai pas fait voilà. Mais pour le documentaire, j'avais envie d'abord d'essayer quelque chose de nouveau que je n'avais jamais fait. Parce que je pense que c'est ça aussi, peut-être le propre d'un artiste, c'est de tenter des trucs, de sortir de sa zone de confort, d'essayer d'apprendre aussi, de s'auto-former sur des nouvelles choses. Et puis, je ne sais pas, j'avais le sentiment que le documentaire apportait peut-être un regard à la fois plus réel, plus humain, plus tendre sur une relation entre un père et son enfant, surtout dans ce contexte-là de pandémie qui était quand même difficile sur le moral de beaucoup de gens, la santé mentale. Les gens qui avaient la chance, comme moi, d'être jeune père, en tout cas tous les gens à qui j'ai parlé ont énormément trouvé de réconfort dans cette relation familiale et dans le temps qu'ils ont pu passer avec leurs enfants. Donc j'avais envie de montrer ça.
Je trouve le documentaire aussi très intéressant comme médium, parce que dans le mot documentaire, en fait, le but, c'est juste documenter quelque chose qui se passe. Mais tu peux aller à un autre niveau et être créatif dans la façon dont tu fais ça. C'est comme dire peut-être, est-ce qu'un journaliste est artiste parce qu'il utilise les mots d'une belle façon? Parce qu'à la fin, il nous rapporte ce qui se passe, il nous rapporte une vraie histoire. Et après, pendant que tu parlais, je pensais, mais peut-être tu aurais pu aussi mettre une chanson sur le documentaire qui parle de ça.
La bande-son a été faite par quelqu'un que vous avez eu dans cette émission, Greg Le Mans. Et Greg m'avait très gentiment proposé de mettre à ma disposition quelques compositions musicales qui berçaient vraiment bien, je trouvais, l'atmosphère de ce que je voulais faire. Beaucoup de talent.
Et c'est quelque chose que tu fais souvent, de collaborer entre artistes pour faire ce que tu veux faire? Ou tu es plus un artiste solitaire?
Je suis très solitaire. Non, c'était aussi peut-être une première. J'avais pas nécessairement l'ambition de faire la musique pour ce documentaire, même si j'avais fait des petits essais. Mais mon instrument de prédilection, c'est la guitare. Et encore une fois, je suis pas un guitariste d'une grande technique. Je m'accompagne, je chante. Et donc, ça ne collait pas nécessairement ce côté folk, là, pour ce que je voulais faire, ça n'allait pas. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui est un vrai instrumentariste et qui pouvait faire une musique d'atmosphère.
Intéressant, ça. Cool. Mais pour ceux qui veulent voir ce documentaire, il est encore sur YouTube.
Comment il s'appelle ?
Je suis père.
Je suis père.
C'est cool. Ça, Guillaume Laurin. Regarde, Guillaume Laurin. Mais on sent cette patte organique et cette patte artisanale, je dirais.
Ouais.
Et qui est très belle, qui fait que... c'est pas lissé, c'est pas on va mettre un filtre ici pour rendre les choses plus belles et puis non et puis parfois on se dit tiens cette petite fille elle agit comme ça et puis y a la caméra donc un peu la folle et tout ça et ce père raconte il est assis sur un banc puis il parle de juste son père quoi, c'est pas un texte qui a été écrit et qui a été travaillé et j'ai beaucoup aimé ça et
je voulais que ça soit sincère. Voilà. Je voulais que ça soit des morceaux de vie plutôt que de trop surpréparer un texte, effectivement, parce que le documentaire peut permettre ça aussi. C'est-à-dire qu'on peut tout scénariser, on peut créer des moments artificiellement, mais ce n'était pas l'intention.
Ouais, puis si tu avais eu le temps, tu aurais peut-être pu un truc comme les yeux dans les bleus et tu restes 6 mois avec le même père et tu fais tout ça.
Le genre de documentaire où tu vois, ils te disent ce ne sont pas des vrais acteurs, tu vois, alors que tu vois que c'est des acteurs.
Et pour revenir à ta question autour des barrières de créativité, je trouvais que c'était un thème intéressant parce que sur un truc que je fais en ce moment, et c'est aussi une collaboration, donc je ne dis pas que je n'en fais pas, tu vois, avec un ami d'enfance en France, donc on fait ça à distance, on fait un podcast. Et on fait un podcast, on essaye aussi quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que c'est de l'humour, et c'est un peu décapant. Et ça s'appelle « C'est quoi le concept ?». Et on est en train d'écrire, alors là pour le coup on écrit beaucoup, mais la grande question qui a résidé à la conception du podcast, c'était de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, comment on prend le problème. Le médium est super, le podcast, mais il y en existe des millions. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et nous-mêmes, on ne savait pas vraiment. On avait envie de parler de tout un tas de choses. On a commencé à faire des listes qui n'en finissaient pas.
D'où le titre.
D'où le titre. Et donc, le concept, finalement, de c'est quoi le concept, c'est de prendre toutes ces listes qu'on a faites. Et on l'espère probablement lorsqu'on va lancer le podcast et le marketer un petit peu, on va faire appel aux auditeurs pour nous suggérer des thèmes. On met tout ça dans un chapeau et on fait matcher deux thèmes qui a priori n'ont rien à voir. Et on se force à raconter une histoire, donc c'est un peu du storytelling avec des angles complètement délirants. Mais donc on en a fait un premier autour des Jeux Olympiques de Paris. Les deux thèmes du chapeau, c'est Jeux Olympiques de Paris et roman photo radio. Donc on s'est forcé à écrire une histoire de roman photo pour toile de fond le JO.
Je trouve ça très très bien comme réponse à la question sur les barrières parce que là, vous avez déjà une barrière qui est la distance. Bon, c'est quand même une barrière physique, mais ce n'est pas une barrière du concept, du sujet. Après, vous cherchez le sujet, et après vous dites, OK, on va prendre ça comme goal, comme but, c'est quoi le concept. Après, maintenant, vous allez pouvoir vous diriger là comme vous voulez en utilisant un thème ici, un thème là-bas. Je trouve ça, c'est comme des barrières qui sont...
On s'impose des barrières, mais en même temps, on laisse part au hasard. Mm-hmm. Et en partie, on peut s'amuser un peu. Là, on peut choisir aussi. Ça nous permet, ça nous oblige à sortir aussi de notre zone de confort. Ça nous oblige à inventer des choses qu'on n'aurait pas qu'on n'aurait pas, des idées qu'on n'aurait pas eues. Et il y a ce côté absurde qui est drôle en soi. C'est-à-dire qu'on fait matcher des idées qui n'ont rien à voir ensemble. Oui. Et on essaie d'élaborer toute une histoire autour de ça.
Et c'est où qu'on peut trouver ça, pardon ?
Alors, le premier est juste fini de produire, là. Donc, on va lancer ça certainement courant avril.
Cool. Pardon, Odon ?
J'ai complètement oublié.
Moi, j'en ai une vite fait. Parce que, tu vois, nous, le podcast qu'on a créé avec Don, on a eu beaucoup de discussions juste entre nous sur la créativité, notre processus de création, tout ça. Puis, on ne s'arrêtait pas.
Oh, je me rappelle ce que j'avais oublié. C'est à propos de l'audience. J'allais dire que vous allez avoir une audience qui est indéfinie à cause de c'est quoi le concept ?
Probablement.
Nous, on était en train d'essayer de savoir quelle est notre audience. C'est ça.
C'est vrai que y a toujours cette question-là, et si on essaie de recoller à l'artiste, en tout cas l'artiste qui veut en faire sa vie professionnelle, il est obligé d'avoir ça en tête, il est obligé de savoir qui va toucher et essayer de toucher un maximum de monde, même si on peut s'en défendre, même si on peut dire qu'on fait ça que pour soi ou qu'on n'est pas vendu, quelque part, il faut manger. Donc, il y a aussi quand même ça dans la tête, toujours pour n'importe quel créateur de contenu qui veut en faire son métier. Mais là, dans votre podcast, vous avez aussi beaucoup de gens qui nous parlent de créativité parce que ça leur fait du bien à eux, en premier lieu, en tout cas. J'ai vraiment beaucoup aimé cette approche-là, parce qu'encore sur la santé mentale, je pense que la pratique artistique, qu'elle soit amateur ou professionnelle, c'est quelque chose qu'on devrait tous travailler. On devrait tous faire vibrer notre corps de créativité, même si on n'a pas pour ambition de devenir le prochain Prince. C'est pas la question, mais ça aide énormément à se sentir mieux, à se sentir vivre, à se sentir utile pour soi, à se surprendre soi-même, à sortir de sa routine, à avoir des nouvelles idées qui peuvent aussi être utilisées dans la vie de tous les jours, dans la vie professionnelle et tout ça. Ça aide à prendre du recul, à s'amuser un peu, à prendre de l'autodérision. Et quand on le fait comme ça, à plusieurs en plus, si pour un podcast, c'est vraiment la mécanique qui marche bien, c'est hyper humain, ça crée un lien fort. Pour moi, ça, c'est de l'art.
Cool. Mais si vous voulez des invités, moi, je suis... intéressé.
Ok. Alors justement, pour l'instant, c'est un concept un peu spécial où on écrit vraiment. Donc c'est pour ça que je dis c'est du storytelling. Le but, c'est aussi d'avoir des invités ensuite et d'avoir quelque chose d'un peu plus spontané.
Et d'improviser, tu veux dire, c'est ça ?
D'improviser davantage, mais c'est un contenu qui est vachement plus produit.
Je comprends.
Voilà,
c'est un truc quand même, tu as dit que... Personnellement, j'aimerais savoir comment vous approchez ça. C'est que tu as dit que vous voulez aussi avoir de l'humour. Moi, je trouve quand... OK, par exemple, si je vais te poser une question, je te la pose. Après, je me dis, c'est pas assez drôle. Je repose la question avec le but d'être plus drôle. Est-ce que ça, c'est un truc difficile, donc, de se dire, il n'y a pas assez d'humour ou...
L'humour, c'est pour moi une des formes d'art, ou la comédie, en tout cas, par exemple, dans le cinéma. Moi, j'ai énormément de respect pour les comédies. Je trouve que c'est une des émotions les plus difficiles à faire ressortir, je pense. Je sais que toi, Serge, tu fais du stand-up. Je suis un gros consommateur de stand-up et je me suis énormément influencé de tout ça lorsque j'ai voulu créer ce podcast. Mais c'est pour ça que tout est écrit, surécrit, relu. Ouais. Et dans le métro, je relis 30 fois les mêmes paragraphes à la recherche d'un hook, de quelque chose qui va faire marrer, d'une idée, d'une métaphore, d'une comparaison, de quelque chose d'un peu outrancier. Je suis incapable d'improviser de l'humour. Moi, il y a des gens qui arrivent à faire ça très, très bien et j'ai une énorme admiration. Sur la spontanéité, souvent, dans l'échange, tu vois.
Souvent, j'ai trouvé que mon humour direct, c'est né, ça, Oui, c'est né d'un genre de defense mechanism. Oui. Donc souvent, tu ne sais pas quoi dire, ah, tu dis un truc drôle ou tu essayes, mais il y a aussi cette peur que, parce que des fois tu crois que tu dis quelque chose de drôle et ce n'est pas la réaction. Et nous, on a de l'humour maintenant dans ce podcast, mais je crois que ce n'est pas quelque chose qui est...
Qu'on cherche, ouais, c'est organique, ouais, ça reste organique.
Ouais. Mais j'étais intéressé à savoir comment vous allez approcher l'humour comme concept ou comme partie de votre...
Encore une fois, le concept lui-même est absurde. C'est faire rencontrer deux idées aberrantes. Le prochain que je suis en train d'écrire avec lui, là, c'est avec le thème de l'art de ne rien faire, la procrastination, etc. Et je twiste déjà un petit peu le concept parce que là, dans l'échange, le premier arrive en posant la question « T'as préparé quelque chose aujourd'hui ?»« Non, le sujet, c'est l'art de rien faire. »
Tu vois, on a ri alors que c'était...
C'est un peu ça, l'idée, c'est « Mais je suis obligé de l'écrire et d'essayer de timer... » pour avoir un rire toutes les 30 ou 40 secondes maximum. Donc, je suis obligé de vraiment y réfléchir. Et mon premier public, c'est mon partenaire qui fait le podcast avec moi. On travaille aussi chacun de notre côté. Et puis, pour l'instant, on s'est dévoilé l'ensemble de nos textes et on a travaillé finalement en symbiose à la fin. Mais l'idée aussi, c'était de s'imposer ses premières limites. Après, on travaille chacun de notre côté avec chacun son personnage. Et on l'enregistre, pour le coup, de manière directe, organique. Et on va se surprendre, on espère se faire rire à terme. En tout cas, c'est la mécanique qu'on espère avoir.
Waouh, j'ai bien hâte d'entendre ça au mois d'avril. Mon cher Guillaume, on arrive presque à notre heure de podcast. Ça va super vite. Moi, j'ai encore 17 questions à te poser. On fera ça peut-être hors antenne. Il y a une question qu'on pose assez souvent à nos auditeurs, et pas à nos auditeurs, à nos invités. Les auditeurs, ils ne font que écouter. Surtout à toi, c'est intéressant parce que tu as toute cette influence artistique que tu as eu dans tes études.
Généalogique.
C'est ça, dans tes grands-parents, tout ça. Tu as été beaucoup influencé. Comment toi, tu réagis ou comment tu juges le petit Guillaume qui a commencé à 10 ans et le Guillaume de maintenant ? Quand tu regardes tes premières œuvres, peut-être pas à 10 ans, mais peut-être à 20 ans, et que tu regardes celles de maintenant, est-ce que tu vas les juger ou tu vas les accepter comme elles sont ? C'est quoi ton processus ?
Je pense que j'ai fait la paix avec ça parce que...
Il y a un moment où tu n'as pas fait la paix, alors.
Sans dire mon âge, j'ai passé l'âge d'avoir ce type d'ambition, d'en faire ma vie. Je ne dis pas que quand j'ai commencé un peu plus sérieusement la guitare, là, vers 15-16 ans, après j'ai un petit groupe avec des potes et c'est le moment... typiquement où on peut se permettre de tous les rêves et je me voyais déjà rockstar.
Comment s'appelait ton groupe ?
Nervous Breakdown.
Oh, cool.
Oh, wow.
donc de l'ambition, du sérieux là-dedans, mais pas pour très longtemps. Ensuite, la carrière plus sérieuse m'a rattrapé, en tout cas... J'ai étudié l'histoire de l'art, donc je n'étais pas forcément parti pour être très sérieux, mais j'ai étudié ça avec beaucoup de sérieux. Et puis, finalement, j'ai travaillé dans ce domaine-là. Mais toujours avec beaucoup de... Avec l'idée que moi aussi, je pourrais faire ça si je m'en donnais les moyens, si j'avais le temps, si. Et puis, pendant longtemps, j'ai vécu avec cette sorte de... cette insatisfaction de moi-même, me dire que vraiment il faudrait que je fasse quelque chose de plus sérieux, il faudrait que je m'y mette, et j'en suis capable, je le sais, mais je manque de focus, j'ai du mal à trouver ma voie, à trouver mon médium, à trouver mon style. Et puis aujourd'hui, si je retombe sur quelque chose que j'ai fait à 20 ans, je regarde avec une certaine tendresse. Je vois les ambitions, je me rappelle de certaines choses. Mais au-delà de ça, non, j'ai fait la paix encore une fois avec ça. J'ai plus vraiment cette ambition-là.
Mais tu serais capable de publier des anciennes productions de Nervous Breakdown, par exemple, si tu avais l'occasion?
Si je faisais quelque chose qui me propulsait sur l'avant-scène, je serais très content de partager tout mon cheminement artistique. Cool. En soi, non. En soi, ça n'aurait pas tellement de sens. Je pense pas. Enfin, peut-être qu'il y a des enregistrements. Il faudra que je les retrouve. Je ne sais pas. Mais non, c'est ça. C'est une question marrante. Je dis que j'ai fait la paix, mais dans un coin de ma tête, il y a toujours une part de moi-même qui dit pourquoi pas
reprendre le rêve, effectivement. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume, l'artisan, l'artiste, le rêveur. super conversation encore. Merci à
vous.
Ouais, super. Vraiment, on a découvert un Guillaume Lerin que les auditeurs de Choc FM ne connaissent pas. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. On vous souhaite tout le bonheur possible dans votre vie artistique et artisanale et dans votre créativité.
Avec le nouveau podcast.
C'est ça, exactement.
Ouais.
On a hâte d'entendre ça. Et puis, nous, on va retrouver nos auditeurs dans notre prochain podcast, notre prochain Juste pour le fun. Je crois que ça va être le 14e ou le 15e.
Moi, j'ai arrêté de compter. Juste 10 doigts.
Ouais, j'ai fait plein de super rencontres. Et surtout, c'est ce qui ressort, moi, dans ceux que j'ai entendus, en tant qu'auditeur, je trouve que c'est inspirant d'écouter les points de vue des gens sur la créativité, sur ce qu'est un artiste et leur propre vision. Il n'y en a pas deux pareils, même s'il y a des points communs, il y a des choses qui ressortent.
Mm-hmm.
Mais je trouve ça très inspirant. Ouais.
Merci beaucoup. Passez tous une super semaine. Et on se retrouve tous les dimanches à 16h sur Choc FM.
C'est juste pour le fun.
Juste pour le fun.
Bonne soirée tout le monde.
Ciao.